Bonjour tout le monde, Spectaculaire commence aujourd'hui, Christophe Rolland au micro, émission numéro 156. Gérald est ici, ainsi que Péroline Barbet, notre invitée. Je l'ai annoncé sur le blog, il était même question, il faut vraiment que je lui présente des excuses, il était question qu'elle passe au mois de décembre, ça n'a pas pu se faire, donc voilà. Elle est bien là aujourd'hui, mercredi 28 février 2018, il est 14h07. Petit peu de retard pour ce début d'émission, ce n'est pas très grave. Donc elle est bien présente et voilà, nous réparons avant que deux mois se soient écoulés, nous réparons cette invitation manquée du mois de décembre. Elle est très intéressante, vous allez voir d'ailleurs. Elle va nous parler pendant l'émission et puis également on va entendre ce qu'elle fait un peu puisqu'elle est productrice. Je crois qu'on peut comme ça de donner ce grand terme ou même encore mieux réalisatrice sonore. On va commencer d'ailleurs, non pas avec une introduction musicale, mais on va commencer avec... reportage du côté de Givors, à la frontière entre le Rhône et la Loire. Commençons donc avec ce premier instant de production sonore, de réalisation sonore, pour voir de quoi il est question. Et puis plus précisément ensuite, Péroline Barbet, jusqu'à la fin d'émission, jusqu'à 15h, aura la parole pour parler d'elle, comme tous les mercredis, les invités le font, une sorte de portrait qui est brossé, et puis on écoutera davantage de ses réalisations. Voilà. Vous nous écoutez à 14h08, toujours, vous avez tout à fait raison de le faire sur le radiocanu.org de la bande internet, ou bien sur le 102.2 de la bande également, mais plutôt la bande FM.
C'est une nourriture le flamenco, c'est comme manger et boire, moi j'en ai besoin pour vivre. Si tous les jours je chante pas, je me sens mal, je mange, je suis pas bien. C'est une nécessité. J'en ai pas, je sais pas, j'ai peur de mourir si j'en ai pas. Je vous dis à ce point-là. C'est trop fort.
Parce que le flamenco, comme on dit, il est vivant.
Moi je joue du chavir. Ce que je joue, c'est du chavir. Et ce que j'ai appris, je l'ai appris pas dans l'école, pas dans le conservatoire, et ce que j'ai appris dans la société. Un peu de là, un peu de là, un peu de là, un peu de là, ça construit, enfin ça forme quelque chose.
Vous êtes écoute?
Oui.
Obligé, mon corps brûle. mon corps brûle. Gidelim, gidelim.
On nous mettait droit sur une table et si on savait chanter une chanson, on chantait une chanson.
Eh bien, vous voulez que je chante maintenant?
On va chercher les tam-tams.
C'est comme ça qu'en fait on transmettait les choses.
Ça, j'ai chanté le jour que je viens de voir ma fille.
Malgré la peur, il y a quelque chose qui est juste, qui parle à un être qui existe au fond de soi. On se lève et puis on se met à la chanter cette chanson.
Est-ce que c'est difficile? Oui, l'amour, pleureux. Oui, mais toutes les chantes et parler amoureuse, je t'aime.
Pourquoi je l'aime, je sais pas. Vous savez dire pourquoi vous aimez telle ou telle chose? Des fois, on ne sait pas pourquoi. Peut-être parce que c'est ancré, vu que j'ai entendu ça depuis que je suis née. Je ne sais pas la raison.
Non, 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 non,
Eh bien, on va la voir en direct. Elle est présente. Péroline, je crois que c'est vous qu'on entendait un petit peu, non, il me semble.
Je sais pas, peut-être que j'ai laissé quelques questions, non, je... Non, à la fin, là, qui chantait.
Non, la question.
Ah, je me souviens plus.
Donc, nous recevons Péroline Barbet. Est-ce que je vous ai bien... alors, non, pas défini, hein, c'est pas ce terme-là, mais cette caractérisation plus ou moins professionnelle. Enfin, vous êtes, voilà, réalisatrice sonore, c'est ça, non? Productrice, animatrice... Non,
oui,
pas animatrice.
Oui, je dis réalisatrice,
même. Réalisatrice, oui, réalisatrice. Mais c'est ce que j'ai mis sur le blog.
En fait, c'est vrai que je suis un peu à mi-chemin entre pas mal de domaines, mais c'est vrai que là, maintenant, mon cœur de métier, c'est la réalisation sonore. Et j'ai quand même aussi un pied dans le monde des archives et un pied dans le monde de l'ethnologie.
On le nomme, Gérald, le camarade commun que nous pouvons avoir, Péroline, toi et moi, Benjamin...
Van der Leek. Le point commun, c'est l'ethnologie, peut-être.
Voilà, avec
la collecte.
Pour lui, la photographie, plus que l'image, oui. Davantage, plus que le son, puis l'écriture aussi. Hein. Nous l'avions reçu, c'était en novembre dernier, pour femme. Non, je confonds, voilà, voisin, puisque femme d'ici, cuisine d'ailleurs, ça c'était Alexis Génie au mois d'octobre. Donc, Péroline, vous êtes, voilà. Enfin, chercheuse même, est-ce qu'on pourrait aller jusque-là, chercheuse sonore?
Oui, je crois qu'on peut le dire.
Ah,
oui.
Ça, c'est bien. On l'a entendu, on l'a écouté, auditeur, je vous recommande de réécouter cette émission avec un casque, parce qu'alors, c'est vraiment... Il y a un effet d'écho parfois, il y a un souffle aussi, enfin du moins, il y a une richesse sonore que spectaculaire n'a
pas
vu.
De la création sonore.
Ah ben oui, non, c'est assez costaud.
Ben là, l'idée dans ce petit teaser, c'était à la fois bon, de rester un peu en suspens, de ne pas trop dire, mais aussi de faire résonner les gens... Chant avec l'environnement sonore de la ville, hein. Donc on entend le train, on entend, on entend l'autoroute, parce qu'on entend beaucoup dans la ville, on entend aussi l'eau. Voilà, c'est
dans le cadre d'une série d'objets, d'une collecte d'objets autour de la ville, orchestre donc.
Tutti Bruiti, c'est un projet qui s'appelait Tutti Bruiti, qui a eu lieu il y a quelques années et qui était un projet porté par le Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, le CMTRA, où j'ai travaillé longtemps comme chargée de recherche.
Quel est le sens de ce sigle?
Centre des musiques traditionnelles Rhône-Alpes, donc c'est une association qui se trouve à Villeurbanne, qui a une vocation régionale et qui s'intéresse au patrimoine de l'oralité au sens large et aux musiques traditionnelles et aux musiques du monde de manière plus particulière. Voilà. Et il y a un travail de recherche ethnologique, ethnomusicologique, qui est couplé avec des programmes d'action culturelle. Donc là, ce petit teaser, il s'est fait dans le cadre d'une exposition sonore qui a eu lieu et qui donnait à voir, donnait à entendre surtout les chants qu'on avait collectés auprès des habitants de toutes origines de la ville de Givors. Voilà, donc là, en fait, ce qu'on entend, c'est toutes ces voix, une espèce de polyphonie... polyphonie reconstituée.
Tout a été remonté en logiciel.
C'est des voix singulières, mais qui forment comme ça un espèce de cœur collectif, quoi, qui est aussi celui de la ville et de ses cultures chantées, cultures musicales.
C'est la Babel. Givors est une Babel. Oui.
Givors est une Babel.
Comme tant d'autres endroits.
Oui.
Péroline, il faut quand même que nous posions à présent cette autre deuxième question, même qui aurait dû être la première, mais c'est très bien, hein, je crois, Gérald, on le fait pas assez souvent, de demander à l'invité pourquoi on a écouté le premier titre que généralement est le programme, ou alors toi, Gérald, il me semble que très souvent tu indiques que tu as trouvé ça sur différents CD, mais on ne pose pas assez cette question qui est pourquoi, voilà, on a écouté ça. Là, merci Péroline, on l'a fait, je crois, pendant quelques minutes. Donc voilà, ce morceau qui est écoutable, retrouvable sur votre site. Oui,
oui, il est écoutable, tout est écoutable sur mon
donc,
site.
Donc je flécherai la chose.
Monde, c'est ça?
Le site s'appelle Monde, oui, et l'adresse c'est Péroline Barbet, c'est à mon nom pour que ça soit plus simple à trouver.
Et tout est en écoute libre?
Oui.
Donc des heures et des heures d'archives dans tous les domaines?
Oui, il y a plusieurs heures, oui.
On y reviendra de toute façon.
On peut passer beaucoup de temps. Donc, cette deuxième question, qui êtes-vous? Qui pourrait être la première? Exactement, ben, tu la connais par cœur, hein, Gérald, cette question. 156e émission, hey, ça fait longtemps, hein, on arrivera à la 200e, j'ai calculé, je crois, en 2019. Hein, 2018 ne se bouclera pas avant qu'on ait terminé qu'on ait fait la 200e. Bref, Péroline, comment êtes-vous venue à ces recherches sonores? Quelle jeune fille étiez-vous?
Quelle collectionneuse
étiez-vous? Voilà,
musicienne, chanteuse.
Voilà. À vous la parole.
Mais j'ai commencé à y répondre un petit peu, je pense. En tout cas, j'y suis venue par le biais de ce travail au CMTRA, même s'il y avait des prémices.
Oui, mais comment être venue au CMTRA? Moi, j'ai
manqué. En fait, bon, moi, j'ai... Je me suis pas toujours intéressée aux questions des musiques traditionnelles et musiques du monde, mais en fait j'ai habité quelques années à Marseille, à un moment où la scène artistique autour des musiques occitanes était très, très vivace. Il y avait un renouveau, il y avait une vitalité, il y avait une espèce d'engouement, quoi. Dans le quartier où je vivais, la plaine, près de mes amis, pour pas mal de groupes qui se formaient, qui avaient des choses intéressantes à dire et à nous faire vivre.
Années 90
Oui, c'était les années 90, c'est ça. Et du coup, j'ai rencontré en particulier un chanteur qui est une figure un peu maintenant des musiques traditionnelles en France, qui s'appelle Manu Théron, qui a plusieurs groupes, notamment celui qui s'appelle Le Corps de la Plane, et qui menait dans le quartier des chorales de chants occitans. Donc moi j'ai vu pour la première fois ces chorales et ça m'a fait une espèce de choc, on peut dire, quand j'ai vu...
Esthétique.
Ouais, de choc esthétique. Déjà, j'ai pas compris d'où ça venait. Je pensais que c'était africain. Je me suis dit waouh. Et puis voilà, il y avait une fièvre qui me plaisait, un rapport au rythme qui me plaisait, une énergie. Et donc du coup, j'ai pris tout naturellement part à ces chorales. Et puis voilà, de fil en aiguille.
En tant que chanteuse.
En tant que chanteuse, ouais. Mmh. Au milieu de. Enfin oui, voilà. Non, après, c'est du chant collectif.
Collectif à combien? Moi, je veux un chiffre. Bon, 10, 15, 20
c'est... Non, il n'y a pas. Le chiffre est fluctuant.
Fluctuant.
Il peut être 3 ou 50.
Ah, voilà, quand même.
Ça n'a pas d'importance.
Ah, mais c'est...
Ce qui compte quand même, c'est d'être plusieurs voix quand même. Là, dans ce travail-là avec Manu Théron, ce qui compte aussi, c'est la question de la polyphonie, quoi, et d'entrelacement des mélodies. Mais bon, ça peut se faire à deux ou à trois, hein, ça suffit.
Ouais, on manque quelque chose, je suppose, quand même, non? À deux ou trois, il manque peut-être une sorte... Enfin, il doit y avoir un effet d'amalgame. Parfois, enfin, non, pas tant d'amalgame, il doit y avoir une sorte de magma, voilà, un magma sonore, non? Je suppose, à 30 ou à 10, ça devrait être quand même plus...
Ouais, l'effet magma, ça peut être positif. Hein.
Oui, non, mais justement, c'est ça. Non, non, mais je veux dire, voilà, à 50, ça peut être très bien.
Bon, voilà, vous, et donc, du
la
coup,
première
en
fois,
fait,
ils étaient
comme,
combien
comme, hein?
Ils étaient combien?
Je sais pas, on était des groupes de...
Non, non, mais quand vous avez reçu cette baffe sonore, cette claque, c'était...
C'était un petit groupe de 10-15 personnes, à peu près.
Ah, quand même.
Que des femmes, alors. C'était des chorales non mixtes à l'époque. Donc, il y avait aussi un effet puissance du cœur de femme, quoi, qui n'était pas inoffensif. Voilà, donc du coup, comme beaucoup de gens qui s'intéressent à ces questions-là, on a un choc esthétique et puis on découvre que derrière ce choc esthétique, il y a toute une histoire, il y a des gens qui s'en préoccupent, il y a toute une histoire associative aussi, une histoire culturelle, il y a aussi une diversité française, c'est un labyrinthe, c'est un dédale, il y a beaucoup beaucoup de choses, hein, c'est riche et complexe, junglesque, et donc du coup c'est un travail jamais achevé en fait. Donc moi je suis rentrée par là, et puis de fil en aiguille je me suis intéressée au chant occitan, puis aux archives du chant et à tous ces gens qui sont allés collecter, on va dire, ces paysans, ces derniers paysans détenteurs de ces chants de tradition orale, qui ont été enregistrés dans les années 60, 70, 80 pour quelques-uns d'entre eux. Et donc voilà, je me suis intéressée à ces archives, et puis voilà, l'aventure a commencé ensuite dans l'envie de peut-être de faire parler ces archives aussi, de les expliquer, de les déplier, de les populariser aussi.
Et alors, par quel biais, comment faire cela? Ça passe donc par de la radio, forcément, puisque c'est du son, mais c'est sur des stations radio, ou c'est donc sur des sites, enfin des blogs, ou des...
Alors, moi je travaille pour des musées, des radios associatives ou France Culture aussi, dans certaines émissions, et puis pour des associations, d'autres associations comme le GMVL. Peut-être qu'on peut lancer le deuxième extrait, parce que du coup je trouve que ça illustre... très bien, ce travail de collecte de chants, ce travail très particulier qui est celui de recueillir la parole et enregistrer la voix.
Ce qui est intéressant, c'est que vous mélangez la pratique, ça part d'une pratique et aussi la théorie est intimement liée à la pratique.
Mm-mm. Vous, est-ce que vous pourriez chanter un chant que vous aimez?
Je aimais, oui, dites-moi.
Est-ce que vous pouvez chanter une chanson?
Oui.
Oui?
Oui.
Allez-y, je vous écoute.
Vous êtes écoute?
Oui.
Obligé, mon cœur brûle. mon cœur brûle.
Gidelim gidelim. Dosta gidelim, gidelim gidelim, dosta gidelim, Tunus yollarından kelle getir. Kelle getirek. Ne? Explique difficile. Oui, l'amour, l'amour.
Pleure.
Oui, mais toutes les chantes, toutes les chantes. Et parler, amoureuse, je t'aime. Rien, femme, rien, non? Si, je tout essaye.
Et vous, vous avez un amour malheureux comme ça?
Oui. Oui.
En Turquie ou en France?
France. France. Je suis Turquie vivante, fini. Je ne connais pas rien. Comme étranger, comme vous. Je suis partie, je suis turque. Entre Turquie. Beaucoup de choses changent. Comme étranger, je ne sais pas qu'est-ce que c'est.
Ah, je me demandais si c'était vraiment la fin.
Oui,
c'était vraiment la fin. Donc là, Péroline, on vous écoutait. On vous entendait. Hein, c'est ça, Gérald, tu disais partie prenante. Alors, ce n'est pas vous qui chantiez, Péroline, mais c'est vous qui interviewiez cette... Elle est chanteuse, non? Ce n'est pas une chanteuse.
C'est... Moi, j'utilise le terme de habitant chanteuse, en fait. C'est des gens qui chantent extrêmement bien, qui parfois font l'admiration de leurs compatriotes, de leurs proches, de leur communauté.
De leur cercle, oui.
Donc, quand on demande des gens qui chantent, tout de suite, on parle de ces personnes-là, mais elles ne se disent pas chanteuses comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de parcours professionnel. C'est des gens, en fait, finalement... qui ont une passion pour le chant qui se sent et se transmet. Donc du coup, dès qu'on présente ce projet de collectage de chansons, alors on désigne, enfin souvent les personnes nous orientent assez spontanément vers les gens qui transpirent la chanson, quoi. Donc
voilà, ce serait ça le sens minimal de la chanson populaire, peut-être.
Oui, alors il y a vraiment une question de passion, quoi. Il y a vraiment une... C'est pour ça qu'on me demande souvent si c'est difficile de collecter ces chants-là. Les gens se font souvent des idées comme ça, de choses très difficiles d'accès. Mmh. Et souvent, pas du tout, en fait, puisque les gens sont passionnés, donc ils aiment transmettre, donc ils se mettent volontiers en situation de transmission. Et c'est un peu ce que raconte cet extrait-là, en fait. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir vraiment la collecte, c'est une main tendue. On entend vraiment... Cette interpellation que je fais, alors c'est difficile de demander à quelqu'un de chanter, comment est-ce qu'on formule la question, alors ça dépend un peu du moment, de la personne qu'on a en face de soi.
Oui, je crois qu'au début elle demande est-ce que vous êtes en train d'enregistrer, enfin c'est pas comme ça qu'elle le formule, mais
est-ce
il me semble
que... Il y aura une trace, quoi.
Est-ce que vous écoutez? est-ce que tu écoutes? Je crois qu'elle demande...
C'est oui. Hors contexte.
Ah oui, voilà, c'est ça, il y a cette elle demande si j'écoute, et puis il y a aussi cette suspension, ce silence, cette espèce de tract. En fait, il y a de cet échange très particulier, très intime qui a lieu, et de ce don, en fait, cette offrande. Donc, voilà. Et puis, donc là, il s'agit d'une jeune femme d'origine turque qui est dans une situation assez difficile à Givor. Elle habitait en foyer à l'époque. Qui parle français mais à sa manière, donc du coup moi je trouve qu'on comprend très bien ce qu'elle dit. En tout cas, on comprend que chaque chant est lié déjà à sa vie personnelle et est souvent lié à ces peines d'amour qui ont l'air assez vivaces, quoi, à fleur de peau. Oui.
Le portrait, on peut le continuer encore de quelle manière, Gérald? Donc, vous n'avez pas indiqué ça, Péroline. Êtes-vous ce passage à Marseille? Ce sont des années où vous avez été marseillaise ou,
oui. Non, quelques années.
On s'était dit, Gérald, on ne reçoit que des Lyonnais. Enfin, mince, alors, là, ça colle pas, ça.
Non. Quelques années. Alors, en fait, c'est vrai que c'est assez différent, là, la matière, d'intérêt ou la matière collectée avec ce que je décrivais tout à l'heure, puisqu'en fait, ces chants occitans ont été aussi réappropriés par toute une nouvelle génération à partir de, souvent de collectages de personnes d'origine rurale, souvent assez vieilles, enfin, même si ça correspond aussi à un cliché. Donc là, en fait, c'est un collectage au présent qui a été fait il y a quelques années. Souvent, on se demande, mais qu'est-ce qu'il y a à collecter ? Il n'y a plus rien à collecter. Tout a été fait ou tout s'est dissous, en fait. Hein.
Soit disparu, soit archivé pour l'éternité.
Voilà, et en fait, moi, je réponds souvent que non, il y a encore beaucoup de choses à collecter auprès de tout le monde, en fait. Si on prend cette question de la chanson et de l'amour du chant au sens large, tout est... Et de la parole, tout est à collecter, ça dépend ce qu'on cherche, effectivement.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'assister, d'être invité, de vous faire inviter à des cérémonies type mariage, etc. Là où, surtout en Europe, dans la tradition, on en pousse une, quoi. Il y a la mémé, le grand-père, celui qui chante bien, qui va chanter sa chanson, quoi.
Ah bah oui, c'est par là que ça passe, hein, le chant traditionnel, c'est par les moments de sociabilité familiale ou communautaire.
Des festivités.
Ou...
Ouais.
Donc évidemment, beaucoup. Après, donc, au CMTRA, c'est vrai qu'il y a un intérêt sur... et un axe très fort mis sur les musiques de l'immigration. Et ce travail-là s'appuie sur la scène, on va dire, actuelle musique du monde, mais aussi sur tout ce réseau de... Moi, j'ai pas d'autres mots. C'est vrai qu'on a toujours un peu de précaution à l'amener là, mais les réseaux communautaires, c'est-à-dire des communautés, des appartenances culturelles.
Qui est à double tranchant.
Donc,
ça dépend de l'instrumentalisation.
Oui, enfin, c'est avant tout, en tout cas, pour moi, des lieux non seulement très inoffensifs, mais en plus de grande importance, quoi. Où on se met en collectif et où on. Enfin, c'est des lieux de partage culturel, de transmission, d'entraide aussi économique. Donc voilà, effectivement, quand on se met en lien avec une association turque, on est rapidement amené à faire un mariage ou tout autre moment où la musique est présente.
Est-ce que vous êtes en train, en ce moment même, Péroline, de nous parler un petit peu de la conférence musicale qui aura lieu ? Gérald, tu as les dates ?
Je peux les trouver.
Moi, je les ai sous les yeux, puisque si vous souhaitez, c'est ce que j'indiquais sur le blog, si vous souhaitez, auditeur, écouter Péroline, bah, continuez, à 14h30, c'est une très bonne chose à faire un mercredi après-midi, mais ou en réécoute. Si vous souhaitez également la voir, c'est tout à fait possible, ce sera possible à deux occasions. Il y aura une première rencontre qui pourrait se faire à l'occasion de la conférence musicale le mardi. C'est au singulier, le mardi 6 mars, c'est 19h30 au GMVL. Je n'ai pas eu la signification de ce GMVL tout à l'heure. Tu l'as évoqué, Gérard.
Groupe de musique vivante lyonnais.
Groupe des musiques vivantes de Lyon.
Voilà.
Oui, c'est encore...
À la Villa Gilet, toujours.
Et alors, il y a une adresse pour cette conférence, ce sera à la Villa Gilet.
Villa Gilet, exactement.
Alors, intitulé de la conférence, Chanson du Maghreb, l'épopée des cassettes arabo-lyonnaises. Je crois que ce sont les prochaines pistes sonores. Autre occasion aussi, autre moment où vous pourriez, auditeur, rencontrer Péroline Barbet, notre invitée, ça pourrait se faire les 17-18 mars. Ainsi que les 7-8 avril pour un stage. Plutôt un stage, non plus une conférence. Alors là, le stage s'intitule de manière très intéressante aussi « Collecte musicale et création sonore ». Est-ce que, donc je repose ma question, est-ce que ce que vous êtes en train de dire à l'instant, ces différentes collectes, ou ce traitement du son, de l'archivage que vous réalisez, est-ce que c'est ce que vous direz lors de cette conférence ou lors du stage, est-ce que ça pourrait être...
Alors le stage c'est vraiment une formation justement à la collecte, savoir pourquoi on collecte, pour qui, comment, voilà, quels sont les retracer un peu aussi l'histoire de cette démarche de collecte et d'ethnomusicologie, donner des clés aussi d'action, et puis ensuite la deuxième partie du stage serait dédiée au traitement,
la pratique,
au traitement de ces enregistrements.
Qu'est-ce qu'on en fait, comment
qu'est-ce
on
qu'on
travaille,
en fait exactement,
qu'est-ce qu'on choisit pour faire quoi avec,
exactement. Et donc moi, une des pistes que je creuse et qu'on va creuser ensemble, c'est celle du documentaire
radiophonique.
Radiophonique.
Et surtout, on l'évoque, donc c'est notamment pour ce qui est de la bande FM française, c'est surtout France Culture qui l'assure, les.
Ateliers création radiophonique.
Quotidiennement, mais il y a notamment 13h30 cette plage de documentaires. Sinon, LSD, je crois que ça a disparu, LSD,
non,
il me semble.
Ça continue.
Ça continue, LSD. C'est à quelle heure, 17h, non?
Ouais, 17-18.
Oui, mais là, de toute façon, il n'en sera pas tellement question pour les stagiaires, à part si. s'il décroche la lune.
Donc, non, mettez votre savoir-faire au bénéfice d'un public désireux d'apprendre.
Oui,
ça.
Alors après, en fait,
quel public qui peut venir en fait.
On verra. C'est la première fois que je fais ça. D'accord. On verra.
Il n'y a pas de limite d'âge, ni pour. Non, est-ce qu'il peut y avoir des ados, même des jeunes, des enfants ou...
A priori.
Ados, pré-ados.
Non, c'est plutôt. Ça s'adresse plutôt à des adultes, et puis à des gens aussi qui sont embarqués dans des problématiques de collecte mémorielle et qui savent pas trop comment s'y prendre, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est des demandes qui émanent. Parfois, hein, des villes, de groupements territoriaux,
d'institutions. Ou de particuliers.
Voilà, exactement, d'enregistrer la parole ou la mémoire des territoires, comme on dit. Et souvent, c'est un terme très vague, c'est très difficile de s'orienter dans cette demande. Donc, voilà. Et alors, vous faisiez référence à donc, cette conférence. Alors là, c'est lié à un projet. C'est lié à un projet que j'ai mené au CMTRA, ensuite on parlera peut-être des autres, mais alors là qui était un petit peu différent, c'est-à-dire que je ne me suis pas forcément intéressée à une collecte au présent de ces chansons du Maghreb, mais plutôt aux cassettes qui ont été éditées dans les années, à la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90, et qui sont le reflet d'une production... très active, créative,
et riche, et
voilà, de musique franco-lyonnaise, franco-maghrébine, et qui était donc portée par des musiciens lyonnais actifs autour de la place du Pont, produite par des épiciers devenus producteurs franco-lyonnais, franco-algérien, excusez-moi. Mmh. En tout cas, présent sur l'agglomération lyonnaise, qui est ensuite diffusé dans les réseaux donc régionaux, puis entre Paris-Marseille, et puis en lien aussi avec le bled, en fait, avec les grandes villes du Maghreb.
Et la grande époque des cassettes, qui était un moyen de production quand même assez économique, assez facile à l'époque.
Voilà, donc l'idée c'était...
Pratique à diffuser.
L'idée, c'était effectivement de s'intéresser aux chansons et aux chanteurs, mais aussi à tous ces réseaux de distribution et de production. Parce que, en fait, ils témoignent d'une espèce de vitalité économique, et puis en même temps du sens de la débrouillardise, qui fait que... il y a des centaines, des milliers de cassettes qui ont été produites. Il y avait
sur
des publics.
Quelques années, les années 80.
Oui, oui.
80, 90.
Enfin, 80.
Quand le support a commencé à péricliter après, la cassette s'est faite de plus en plus rare.
Voilà, le grand boom, c'était les années 80, quoi, jusqu'à l'aube des années 90.
Donc des épiciers se sont improvisés ou ont travaillé pour être producteurs de musique du jour au lendemain.
Ils ont senti qu'il y avait une demande, en fait. Il y avait une demande des familles en particulier.
Et on trouvait les cassettes dans leurs épiceries, du coup.
Oui, qui sont devenus ensuite des magasins de musique, des magasins de cassettes. Ils se déplaçaient aussi dans les marchés.
Oui. Je m'en souviens.
On en trouve encore parfois.
Oui, encore. Et encore, on trouve encore des cassettes.
Opus.
Ouais. À certains marchés, même.
En fait, c'est vraiment... En plus, ça correspond à une histoire musicale, à un moment de l'histoire musicale assez intéressante, où ces musiques traditionnelles venues du Maghreb s'électrifiaient. Donc du coup, on a vraiment des mélanges d'étonnants entre zorna, accordéon parfois, et puis les débuts du synthé, de la boîte à rythme, de la guitare électrique
80,
aussi, la basse
traditionnelle plus.
Voilà. Et puis ensuite, progressivement, malheureusement, le synthétiseur a mangé un peu tous les instruments, mais
pour le meilleur et pour le pire. Peut-être pour le pire.
Pour le pire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on veut faire jouer ces chanteurs, j'ai essayé de le faire plusieurs fois, ils viennent tout seuls avec leur synthétiseur, quoi. Alors ça correspond aussi à des réalités économiques, parce que plus de musiciens, c'est plus cher, mais ça correspond aussi, ça s'est substitué complètement, donc il y a quelque chose quand même qui... Mais en tout cas, quand on écoute les cassettes, il y a des choses vraiment fantastiques dans le sens où il y avait une liberté. Ça s'entend vraiment, donc on expérimentait pas mal. On piquait à droite à gauche. Et puis voilà, il y a ces sons du synthé aussi qu'on retrouve dans les musiques de variété française. Donc qui résonnent aussi avec... en tout cas, pour moi, avec notre mémoire musicale. Pour exemple, là, dans la compile, il y a beaucoup de musique chaoui, les Staifi, et il y a un chanteur Staifi qui se lance comme ça dans un un air Staifi revisité, électrifié et tout ça.
Alors Staifi, il faudrait préciser.
De Sétif, enfin c'est un genre de musique algérienne. Okay. Et
Chahabi, c'est autre chose.
Oui.
Oula, oula.
Oui. Et donc on retrouve dans cette chanson un emprunt de Jean-Michel Jarre, par exemple, mm-hmm. d'Equinox. C'est la même époque.
Citation,
clin d'œil, mm-hmm. emprunt.
Est-ce qu'on l'a ce morceau, celui-ci? Non,
moi il me semble. Je vous en ai mis un.
Oui, si, on peut peut-être écouter. Il y en a quelques-uns.
On peut peut-être écouter Nordine Staifi, sinon on peut écouter aussi la compile.
La Carnava, mais on va changer, on va pas mettre autre chose.
Non, c'est celui du dessous, du coup c'est.
La Pirriota.
Non, c'est encore en dessous.
Intro cassette.
Il y a les
intro cassette. Là, on va entendre du plastique.
PDP, ouais. C'est pour Place du Pont, c'est ça?
Oui, Place du Pont, maison de production. Donc ce qu'on n'a pas précisé, Péroline, c'est que ce travail a duré quelques années, peut-être même. Hein,
oui, oui, oui.
De collecte, des milliers de cassettes qui sont devenues une compilation avec de 3 CD.
Coffret 3 CD, en vente au CMTRA et chez Frémaux et Associés, voilà.
Et produit par Irène.
Ah oui, il y a eu un documentaire sonore que vous pouvez retrouver sur mon site qui s'appelle Place du Pont Production, chanson du Maghreb à Lyon, et qui a été diffusé dans l'émission à l'époque Sur les Docs, qui n'existe
oui,
plus.
Oui, qui a été remplacé par LSD, justement, d'en parler.
Exactement.
Alors on va écouter.
Spécial mariage.
Mokhtar Mezoud, tu peux décrire la pochette?
Oui, alors on voit donc le chanteur Mokhtar Mezoud dans sa Renault 21. C'est mythique, quoi. C'est les cravates d'époque, les... Oh, c'est excellent. T'as de revoir ça, c'est...
Il y a encore mieux sur lui.
On voit le chanteur, grosso modo, qui vend ses cassettes, enfin... Et en même temps, qui reçoit un coup de téléphone, parce qu'à cette époque, dès qu'ils avaient un coup de téléphone, c'était pour un mariage, c'est qu'ils avaient du boulot le soir même, quoi.
Place du Pont Production, chanson du Maghreb à Lyon. Un documentaire de Péroline Barbet et Jean-Philippe Navarre.
Quand on retrouve ces cassettes, on se dit... on n'a pas le droit de les jeter sans les numériser ou trouver une solution pour les faire partager un maximum et essayer de... Parce qu'on a des cassettes qui datent des années 80, je pense que lorsqu'on va en écouter quelques-unes, je peux être sûr à 100% que c'est des chansons très peu connues, hein, qui ont cartonné à l'époque, mais par la suite, vis-à-vis, parce que je suis jeune, je n'ai que 27 ans, vis-à-vis de la nouvelle génération, je suis pas sûr qu'ils connaissent ce patrimoine, quoi. Et c'est mon père, ouais. Mon père paie son âme, la hamo, comme on dit au pays, qui nous a transmis, hein. C'est lui qui nous a légué ses cassettes, hein, pour la plupart. Hein. Voilà, c'est lui qui a commencé un peu en travaillant, en allant à la Place du Pont, en achetant les premiers tourne-disques. Et puis progressivement, les 45 tours ont cessé, ont laissé la place aux cassettes audio. Et il a continué, voilà, le cercle toujours Mona Cassette, c'était le magasin référence, quoi.
Les éditions L'Étoile Verte vous présentent le chanteur vedette Mokhtar Mezoud.
J'ai des souvenirs de l'époque. Par exemple, pour un mariage, voilà quoi, ils montaient, les voisins, allez, sors-nous les cassettes, et c'est parti, quoi, ils descendaient, c'était des après-midi de danse et de fêtes, de joie, quoi.
Ou alors même, on peut le laisser peut-être en fond sonore. Non, qu'en pensez-vous, Péroline? Oui, non, ou on
coupe. Oui, bonne idée, ça donnera du rythme à ce que je vais dire. Oui, donc là, il y avait deux documents. Il y avait donc l'introduction du documentaire réalisé sur les docs. Et ensuite, c'était un titre qui faisait partie de la compile donc, de Nordine Steiffy.
Et là, c'est lui qu'on écoute, c'est ça?
Là, c'est lui qu'on écoute, qu'on entend.
Oui, on l'écoute encore un peu, on l'entend encore un peu, ouais, à peine.
Alors, Nordine Steiffy, il faisait du disco Steiffy, il avait appelé ça comme ça. Il fait pas partie de la compile, en fait, on l'a découvert un petit peu après, et c'est vrai qu'il était très précurseur dans son utilisation du synthétiseur et du groove, groove disco, enfin, dans le fait d'assumer et de transformer sa musique.
C'est quelles années, ça, à peu près? Oui. Allez, fin 80, je suppose, non?
Oui, c'est ça, ouais. Autour de 85, 83, 84, 85, 86, par là.
C'est de la musique, donc, on pourrait dire marginale, parce qu'elle est en dehors des systèmes de production classique, mais quand même très populaire, parce qu'elle est très diffusée et très écoutée.
Oui, c'est une musique non institutionnelle, mais par contre, elle est très enracinée dans les réalités sociales des premières générations d'immigrés à Lyon. Donc ça représente beaucoup, je pense, beaucoup de gens. Ça représente aussi beaucoup pour certaines personnes aujourd'hui, quand voilà, il y a encore beaucoup de gens qui sont en quête. Alors, en quête de ces chansons-là, parce qu'elles ont un effet nostalgie. D'abord, ces chansons, elles portaient aussi les réalités quotidiennes de ces immigrés en France. Donc, elles parlent du travail, elles parlent de la société française, elles parlent aussi de la nostalgie du pays, elles parlent de l'exil, bien sûr. Donc, du coup, c'est des espèces de chroniques.
C'était des compositions originales, c'était pas des standards, des reprises, des choses.
Il y avait des reprises, bien sûr, mais
il y avait également de la composition.
Et les thèmes sont quand même étroitement liés à cette réalité de l'exil. Et il y avait en particulier, donc ça c'est ce qui a été mis à jour dans ce travail et qui me semblait très intéressant, c'est qu'il y a aussi pas mal de textes. Bon, c'est vrai que la majorité des chansons parlaient d'amour et d'exil. C'est quand même les grands thèmes. Mais il y avait aussi toute une partie de chansons, notamment chez certains chanteurs, qui étaient très engagés et qui dénonçaient la montée de l'exclusion, en fait, et du racisme. Donc, qui commentait la vie politique, qui décrivait la montée du Front National, l'instauration de la carte de séjour, toutes ces choses-là.
Je pensais à Rachita et au groupe Carte de séjour, qui vient aussi de là, dans un sens, mais qui a eu une reconnaissance populaire beaucoup plus large.
Oui, alors c'est un petit peu différent. C'est la génération juste après. C'est-à-dire que là, les chanteurs que j'ai rencontrés, c'est des chanteurs de l'exil, on va dire. Alors que la génération de Rachita revendiquait vraiment leur être là, ici, leur réalité de banlieue. Et puis Rachita était quand même très tourné, il a été façonné par le monde du rock et par les pentes de la Croix-Rousse, alors que...
Mais il a dû écouter ses cassettes. Enfin,
c'est vrai qu'il a eu vent du projet, c'est pas quelque chose qui lui est étranger, mais il se positionne pas exactement de la même manière.
Non, mais je veux dire, il a dû les écouter dans le transistor de sa cuisine, enfin du moins quand il était enfant, ou enfin il a dû...
Une cassette.
Oui, c'est ça, dans la TSF. Parce qu'on connaît un peu est-ce qu'il y a des chiffres, la diffusion de ces cassettes, c'était quoi? C'était des milliers, des dizaines de milliers?
Il y en a eu des milliers. Il y a quand même trois principaux éditeurs. Finalement, il y a beaucoup de maisons d'édition sur les cassettes, mais finalement, elles sont tenues par trois personnes. Donc ça aussi, c'était une nébuleuse à débrouiller. Donc finalement, il y avait très peu de producteurs et de personnes incontournables quand on voulait éditer une cassette, qu'on était chanteur ici. Après, il y a eu des milliers de cassettes. Par contre, il y avait aussi beaucoup de chanteurs d'Algérie qui étaient édités ici, ou des chanteurs d'origine algérienne, mais habitant Paris, qui, en fait, lors d'un gala ou d'un concert à Lyon, se faisaient enregistrer ici et étaient produits par ces éditeurs lyonnais. Donc, c'était une manière, d'avoir sa propre cam, en gros, avant
de ramener au pays.
Voilà. Donc, du coup, moi, j'ai pas valorisé ces cassettes-là, en fait. Il y avait l'idée vraiment aussi de travailler sur le réseau local.
De musiciens.
Donc, c'est vrai que ça avait partie des questions que j'avais quand j'abordais ces musiciens, c'est de savoir qui était lyonnais. Alors, avec Évidemment, c'est très élastique cette notion de Lyonnais, mais l'envie c'était quand même de parler de cette réalité musicale locale. Donc il fallait que les musiciens soient complètement enracinés ici, ce qui est le cas pour pas mal d'entre eux, ou alors aient vécu un moment important de leur vie ici à Lyon, quoi. Mmh. Donc il y a des gens qui sont partis, qui sont rentrés en Algérie, qui ont été expulsés d'ailleurs, comme Tazi. Il y a des gens qui sont décédés aussi. Il y a des gens qui n'étaient pas originaires de Lyon, mais de Saint-Étienne ou de Chambéry, mmh, comme Nordine Staïfi, mais qui par contre, enfin je veux dire, le réseau de distribution et de production, il était lyonnais. Il passait par la place du Pont, qui était le lieu de convergence.
La fameuse place du Pont.
Exactement.
Les hommes debout. Et on parle que d'Algérie, mais le Maghreb est plus vaste. Et il y avait aussi la Tunisie et le Maroc, peut-être.
C'est vrai que au départ, je parle de musique du Maghreb, mais finalement, en fait, à vrai dire, il faut se rendre compte qu'il y a un chanteur marocain, Omar El Maghrebi, qui est représenté dans la compile, mmh, et il y a un chanteur tunisien, donc Amor Afsouni, mais qui fait de la musique algérienne, qui est vraiment tombé amoureux de la musique algérienne, donc à la fois par goût personnel, mmh, mais aussi parce qu'il faut se rappeler que ces musiciens jouent pour un public familial, donc ils sont au service de la demande, quoi. Donc ça, c'est très important, et donc si la demande est algérienne, et ben, ils font de la musique algérienne, et plus encore, si la demande elle est originaire de l'Est d'Algérie, ce qui est beaucoup le cas à Lyon, eh ben ils vont faire de la musique est-algérienne, même si en fait, eux, leur background, leur appartenance d'origine va être plutôt liée au raï et à l'ouest algérien.
Donc la langue change aussi, j'imagine.
Donc la langue change aussi.
Et puis il y en a d'autres, l'oranais, c'est pas les mêmes langues.
Exactement, alors c'est comme ça qu'ils se disent que finalement, en fait, tout le monde fait là où l'air du temps les amène, mais par contre... quand on rentre un peu dans le fond, on se rend compte que les musiciens disent « Ah mais non, 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 lui, s'il vient de Sétif, il ne peut pas faire de l'oranais parce que ça s'entend, quoi. Mmh. » Ça s'entend dans l'arabe, oui, mmh, qui est utilisé.
Mmh. Bon ben...
Purement, moi,
on s'est écouté.
Je pense à ça, purement vraiment local, Paris, Bordeaux, Marseille, Nice, il y a...
Ben en fait, toutes les grandes agglomérations...
ont dû aussi avoir leur musique, voilà, leur réseau, mais vous, Péroline, c'est surtout...
oui,
c'est local,
alors il y a des travaux similaires qui ont été menés à Paris et à Marseille. Non, mais à Marseille, il y a quelqu'un qui fait quelque chose sur les productions vinyle 45 tours. Donc c'est une autre musique, mm-hmm, c'est un autre support et c'est une autre période historique. Donc c'est très très différent. Mais lui, en fait, donc, il a travaillé sur... le projet s'appelait Les Sillons de Belzins. Effectivement, là, tous les producteurs et les lieux de vente étaient situés à Belzins.
Donc voilà, c'est un quartier, la Guillotière lyonnaise peut-être, c'est ça.
Et à Paris, c'est la Goutte d'Or.
Mmh. Et oui.
Il y a un grand théâtre.
Il nous reste très peu de temps. On peut évoquer très rapidement peut-être un autre projet avant de finir avec un très beau bestiaire et un grand extrait dans sa totalité. Vous avez travaillé sur le carnaval, rapidement, on peut écouter un tout petit extrait. C'était quoi ce projet, Ville Carnaval?
Carnaval, c'est un documentaire que j'ai réalisé l'an dernier sur les carnavals du Sud. Donc j'ai été dans trois lieux. En gros, l'histoire, c'est trois lieux, un seul feu. Et les trois lieux, c'est Pézenas, le quartier de la Plaine à Marseille, et Murs, le village de Murs dans le Luberon. Et donc c'est une traversée un peu somnambulique dans les carnavals de ces trois lieux.
Et Murs, c'est là où il se balance de la Lide, c'est ça?
Non.
C'est pas ça. C'est je confonds avec un autre village où il se balance de la lie de vin.
Courmentéral, oui.
Voilà.
C'est le Languedoc, c'est à côté de Pézenas.
D'accord.
Effectivement, c'est une région où les traditions carnavalesques sont très fortes, quoi.
On va écouter un tout petit extrait. Hein.
Où j'ai vraiment dansé sans arrêt, jusqu'à et sous le masque, ça contribue, ça, le vin, les percussions, tu vois, l'état mort, là. Ça contribue vraiment à te mettre dans un état second à la fin du carnaval, quoi. Quand on danse devant, autour du bûcher, tout ça, si tu veux, l'individu s'efface devant la singularité, quoi. Il n'y a plus... Et c'est ça qui est extraordinaire de danser sous le masque, c'est que toute la... La personnalité individuelle est dissoute. Il reste une singularité, mais qui n'est pas individuelle, qui est anonyme, qui représente plus une force, une puissance quoi, qu'une personnalité.
C'est direct là. Hein,
direct.
C'est...
Quand on coupe, on coupe.
Non,
parce qu'il reste, il est 54. Oui. Il faudra absolument qu'on finisse avec le cerf. Parce que c'est très, très bien, très beau.
Non, non,
le,
alors.
Le bestiaire.
Alors, tu viens de déflorer le secret.
Ah, pardon.
Il faut surtout pas dire le titre.
Ah, oui, là, oui, là, oui.
Il faut surtout.
Il faut deviner l'animal, oui. Bon.
Exactement. Ça s'est quand même construit un peu comme une devinette.
Ah, je suis désolé.
Donc, en fait, pour l'instant, je l'appelle comme ça. Il s'appelle.
Il est en cours, hein, de réalisation.
Il est en cours.
Le Bran, mais on dit pas ce que c'est.
Non, arrêtez. Non, il s'appelle. J'ai oublié le titre.
Bestiaire en cours.
On va dire bestiaire sonore, oui.
Bestiaire sonore.
On l'entend, mais on ne le voit jamais.
D'accord. Et combien d'animaux prévus?
Je ne sais pas encore, peut-être une petite dizaine.
Ah, vous êtes à combien, là?
La basse course,
là. J'en ai deux pour l'instant.
Et on ne peut pas révéler l'identité, la nature du deuxième non plus, alors. C'est la surprise.
Ah, il ne faut rien dire.
Ça sera édité, produit en CD, peut-être? Ça peut être des supports pédagogiques.
Non, il va y avoir une exposition sonore menée par le Parc Régional du Haut-Jura.
Ah,
voilà. Voilà, ça devrait pouvoir s'entendre là-bas dans quelques temps.
Pas prévu sur des heures d'autoroute? Dans des petits
enclaves de repos, après,
ou dans des ascenseurs? Ça pourrait
non,
être une bonne idée.
C'est pas de la musique d'ascenseur.
Si, non, mais déjà, il faut les faire.
Il faut se faire.
Oui. Déjà, il faut les faire, et puis ensuite, on verra où est-ce qu'on peut.
Oui, après, il y a des circuits de diffusion aussi pour ce qui est
Gérald,
collectage et musique du monde.
C'est prêt.
On n'a pas parlé musique du monde encore.
C'est prêt. Eh ben, écoute, si tu veux faire.
Moi, cette appellation musique du monde, je la trouve un peu liée.
Gérald dit qu'il faudrait 2 heures, en fait.
Bah oui, surtout.
Voire 3.
Exactement, j'ai bien compris. Mais il y a le site consultable à volonté de Péroline.
Non, mais tu le sais très bien, on va empiéter sur l'émission suivante. Hein, puisqu'il n'y a jamais d'émission
de toute façon,
après.
Enfin, rarement. Bon. Arrête.
Donc c'est prêt.
On lance.
Ouais, ouais. En Fifi, allez, hop, en bas. Ah ben, il y a deux. Je le marque toujours. Il y a 2-3 ans, j'avais entendu le premier coup. Le 17 août. Puis après, bon, ça se calme. Puis alors, le plein boom, c'est début septembre. Ah oui, ça sent la fin de l'été, c'est ça. Ben oui, parce qu'il y a déjà la brume. Mais il y a la brume, puis dans les fonds, comme ça. Donc vous avez la brume sur 1m50, ça fait comme un nuage, quoi. Donc on les voit ou on les voit pas, quoi.
Depuis que je suis ici, en voir réellement, je n'ai vu qu'un une fois, à 100 mètres à peu près. Sinon, on l'entend et on ne le voit jamais, pratiquement, hein, hyper sauvage, hyper créatif. Sinon, on ne le voit jamais, pratiquement. Hein. C'est majestueux, je pense que ça pèse 160 à 200 kilos.
Alors vous voyez, pendant un mois, ça bouge. Il n'arrête pas, il n'est jamais couché.
Oui, c'est fort. Alors,
et quand le vent est à la pluie, donc ça repousse. Et des fois, c'est même la journée, hein, c'est pas que le soir et le matin. Hein.
À l'oreille des bois ou proche, hein. On l'entend par rapport à sa position à lui, on l'entend sur 300 à 400 mètres, quoi. C'est vraiment un cri bien spécifique.
Il soit même, je pense, même à 1,5 km, 2 km, on l'entend, hein. On l'entend loin dans la forêt, là. Loin, ils sont très loin. Hein.
Ouais, ça fait même peur. Hein. Ça fait même peur. C'est assez fort, assez virulent. Hein.
Ah oui, là, c'est énorme. Là, c'est le coin, là. C'est le coin, il n'y a pas de doute.
Toute la journée, même la nuit, il
est sûr. Le soir, c'est calme, s'il n'y a pas de vent, tout ça.
Jusqu'à minuit, 1h du matin, ça va se calmer un peu pendant la nuit. Encore c'est les nuits, c'est rapide. Et à 5h du matin, là, c'est... C'est y va.
J'étais une fois chargé là. Il était juste de l'autre côté de la route. Ça faisait plusieurs soirs que j'entendais. Et puis j'ai voulu m'approcher, mais il faisait quand même bien brun. Et puis il a dû me sentir, je sais pas quoi. Puis à un moment donné, j'ai entendu sauter sur la route. Alors je suis revenu vite au chalet. Je suis rentré, pourtant je suis pas peureux, j'étais chasseur pas mal d'années. Et je suis rentré au chalet, j'ai fermé la porte. Puis je suis monté donc à l'étage, à ma fenêtre de chambre. Et bien il était là, vous voyez où est le barbecue là. Il était là. Et le lendemain matin, quand je me suis levé, tout l'endroit où je fais le tour, souvent où je passe tout le tour de la propriété, j'avais un sétige. Il m'avait saccagé de sétige. Il me l'avait tout écorcé. J'avais des petits sapins pendus de planter au bord. Il y avait un peu plié, il me l'avait écorcé. Puis tous les tuyaux, vous voyez, ils sont au bout là-bas. Maintenant, ils sont grands. Ils m'avaient saccagé tout ça. Ah oui. Et puis, en fin de compte, il a été tué, c'est un cesse pour... J'ai été tué le premier jour de chasse à côté.
Vous êtes bien sûr Radio Canu. Ne vous méprenez pas, nous écoutions un extrait d'un bestiaire sonore en constitution qui est en cours de réalisation par notre invitée du jour, Péroline Barbet, créatrice sonore. Vous pouvez réécouter tous ces extraits sur le blog, son blog, Monde, que nous ne manquerons pas de mettre sur notre blog à nous.
Blog sur blog.
C'est déjà fait. Blog. Et tout était déjà indiqué pour cette émission.
On mettra toutes les informations, les conférences, etc., que Péroline Barbet va donner, ainsi que les stages prévus à la Villa Gilet au GMVL.
Tout a déjà été rempli, Gérald. Auditeur, émission numéro 156, vous n'aurez qu'à retrouver tous ces éléments sur... vous n'aurez qu'à vous rendre sur le blog pour tout retrouver absolument. Attention, hein, je crois, autant nous c'est un blog, alors que Péroline c'est quand même un site. Moi, il me semble qu'on peut faire la différence entre un site et un blog en termes d'élégance et de... Enfin bref, l'émission numéro 157 est déjà annoncée, auditeur. Ce sera un spectacle qui va avoir lieu au Théâtre de la Croix-Rousse ainsi qu'au Théâtre de la Renaissance. Calamity Jane et Billy the Kid. C'est avec une musique de Gavin Bryars qui devrait être présent sur scène.
Deux invités de marque.
Un compositeur, Jean Lacornerie, directeur du théâtre de la Croix-Rousse, ainsi que metteur en scène. Pour faire d'autres petites annonces, donc voilà, c'est un spectacle à retrouver la semaine prochaine. Enfin, du moins, il commence mardi 6 mars, nous on en parlera le mercredi 7. Et puis c'est encore donné le jeudi 8 à la Croix-Rousse. Et les vendredis 9 et samedi 10, ce sera au Théâtre de la Renaissance, puisque c'est une sorte de partenariat coproduction. La Biennale Musiques en Scène a commencé hier, mardi 27 mars, et se termine le 21 mars. Dans ce cadre-là, il y aura La Voix Humaine. C'est intéressant, hein, il y a beaucoup de sons ces temps-ci, ou de musique, ou de composition. Je ne sais pas si c'est Péroline qui aura tout lancé pour nous, pour cette reprise. Hein. Auditeurs, vous l'aurez constaté, on a eu deux semaines de relâche. Il nous arrive également pendant l'été, parfois, de prendre nos quartiers. Eh bien, la semaine dernière, ainsi que la précédente, nous n'étions donc pas là. Et là, nous reprenons. Donc, merci Perline pour cette émission de reprise avec, voilà, du son, La Voix Humaine. C'est un mélodrame, je crois que, ou monodrame, je sais plus quel est le terme que Jean Cocteau et Francis Poulain ont utilisé pour qualifier cette œuvre. C'est une œuvre très, très particulière. Une femme qui répond au téléphone pendant trois quarts d'heure. Voilà. Donc, ce sera sur la scène de l'auditorium avec l'Orchestre National de Lyon, dirigé par, Baldur Brunimann, je crois. Un concert le lendemain sera donné avec des mobiles, enfin voilà, plein de choses. Il y a aussi du théâtre avec actrices à venir la semaine prochaine, mardi 6 jusqu'au samedi 10 mars. Marina Hans sera présente sur scène, ainsi qu'Audrey Bonnet. J'aurais bien aimé les avoir dans l'émission, mais ce sera pas possible. Ce sera Gavin Bryars, qui est un grand compositeur aussi. Et puis il y a Nuit Batman qui est prévue à l'Institut Lumière avec Tim Burton, voilà. Donc c'était, bref, histoire de faire quelques petites annonces, mais Perline, vous vous en rendez compte, hein, Gérald aussi. Deux heures d'émission, ça aurait été bien. On se revoit quand? Alors, on va prendre nos calendriers, peut-être au mois de juin ou alors saison prochaine, parce que il y a encore beaucoup de choses à faire.
Prochaine actualité.
Il y aura d'autres.
Pour la finalisation du bestiaire sonore.
Ok.
Quand il sera prêt. Je ne sais pas si on fera le déplacement dans le Jura. Quoique moi, ça m'intéresserait bien de voir un. C'est un musée, c'est ça, dans lequel il y aura des casques et des choses comme ça. Auditeur, je crois que j'aperçois Pascal, il me semble-t-il. Est-ce que c'est bien lui? Donc le blues des canuts va commencer d'ici quelques instants. Vite, Gérald, vidons les lieux avant de créer une autre querelle ou un incident diplomatique dans les restes de Radio Canut. Venez nous retrouver un mercredi prochain si vous souhaitez, auditeur, à 14h. Ça va être très intéressant et très amusant. D'ici la fin de journée et la fin de semaine, la semaine prochaine, restez à l'écoute des programmes de Radio Canut. Tout à l'heure à venir. L'excellente émission Méga Combi à 18h, même si paraît-il des gens quittent cette émission. Enfin, je ne comprends pas. 19h, le Canu Info. 17h, on n'arrête pas le prog. Et puis là, voilà, 15h05. Je crois que Pascal et le Blues et Canu vont commencer dans quelques instants. Gérald, on se dit à la semaine prochaine.
Alors, merci Péroline d'être venue.
Ah, et puis merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette
bonne continuation.
Quelle qualité sonore pour cette émission. C'était vraiment très très bon. Merci Péroline. Ciao tout le monde. Au revoir.